Il est minuit, le Kenya est indépendant.
Jukebox.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
Ah bon, Richardo.
Une page d'histoire mise en récit par un texte des archives et des musiques associées à son sujet. Chaque samedi de 19h à 20h sur France Culture, voici Jukebox. Bonsoir à tous. Ce soir, retour en Afrique de l'Est pour un voyage aux abords de l'Équateur, dans une zone que l'humanité aime à considérer comme l'un de ses berceaux, mais que ses habitants avaient baptisé en fonction des neiges éternelles qui parsèment son sommet, le Kenya. Libéré de la tutelle britannique en 1963, le pays, tiré par sa locomotive Nairobi, apprivoise une forme de modernisme, les gratte-ciel, la radio et une certaine liberté de parole. Le tout permettant à la scène artistique et notamment musicale d'innover, devenant, pareillement à sa voisine éthiopienne Addis Abeba, l'une des plus dynamiques du continent. Ce soir donc, on croisera des palmiers au bord des rues, des collectes de fonds, des vikings et des guitares brisées. Ce soir, Kenya, les rythmes de l'indépendance. Nairobi, où ce jour de 1974, un expatrié bedonnant s'agace au volant de son automobile, scotché dans le rush hour, les embouteillages du matin. Décidément, cette ville devient incirculable. Autour de lui, les grosses européennes sont, comme la sienne, à l'arrêt. Heureusement, la saison des pluies arrive et les températures sont supportables. Un vendeur ambulant de l'East African Standard remonte la file des véhicules distribuant ses exemplaires contre un shilling. Le type en attrape un, sans un regard pour le gosse. À côté de lui, son compagnon d'infortune en profite pour se faire nettoyer le pare-brise. Que disent les nouvelles du jour? Oh, pas grand-chose. Quelques touristes dévorés par des lions dans une réserve. Et puis toutes ces discussions autour du Swahili qui bientôt deviendra la langue officielle du pays. Il a le temps de parcourir les gros titres avant que le flot des voitures libérées par le passage du feu au vert ne s'écoule de nouveau. Au milieu des carrefours, juchés sur leurs petites guérites, les policiers tentent vainement de fluidifier les choses. La faute à tous ces chantiers, ces gratte-ciels qui hérissent depuis peu la ville et dont l'activité congestionne la circulation. Bientôt, à ce rythme-là, Nairobi ressemblera à Manhattan. Au loin, il aperçoit le futur centre de conférence internationale voulu par le président Kenyatta et qui devrait attirer encore plus d'entreprises et de cadres qui iront s'entasser dans tous ces hôtels de béton. Hilton, Intercontinental, ambassadeur. Autour de lui, il observe également les bus et autres transports collectifs charriant leurs travailleurs. Devant lui, il détaille des Indiens enturbanés, sikhs ou hindous, entassés sur la plateforme d'un camion. Eux ne dorment pas dans les 5 étoiles. Depuis quelques années, on peut même dire qu'ils payent la facture de la décolonisation pour Londres, soumis à l'obligation de solliciter un permis de travail et relégués aux emplois subalternes. Même les Noirs sont mieux lotis. Ainsi va Nairobi, un matin de 1974. Together every day doing this whole thing. Getting Together, le groupe Matata, dont le nom signifie les ennuis en swahili, pour ce titre extrait d'un album enregistré à Londres en 1974. Le groupe Matata qui, 3 ans plus tôt, avait été élu meilleur groupe d'Afrique de l'Est par la BBC. Les Anglais, ça tombe bien, on y arrive. Au commencement était une colonie britannique. Ces derniers, arrivés sur place vers 1895, avaient instauré les années suivantes un protectorat. Enfin, ça ne se passe pas très bien avec ceux qu'ils sont censés protéger. Une poignée de colons, notamment écossais, s'appropriant les meilleures terres du pays, regroupées sur les hautes plaines fertiles, ces Highlands où se trouvent les plantations de thé, qu'ils exploitent au détriment des Kikuyu, la principale ethnie locale. Dans un pays dénué, contrairement à ses voisins, de métaux ou de pierres précieuses, la question agraire va rapidement devenir explosive, faisant du Kenya, à la manière de l'Algérie, la poudrière de l'Afrique de l'Est. Le mouvement indépendantiste, toutefois, est divisé. Certains rares propriétaires kényans revendiquant le droit de pouvoir s'acheter d'autres terres quand les petits paysans pauvres réclament eux une réforme agraire complète et que les travailleurs urbains s'organisent au sein des premiers syndicats. C'est alors qu'en octobre 1952 éclate, parmi l'ethnie des Kikuyu, une insurrection sanglante et xénophobe, la révolte dite des Mau Mau. Quelques Anglais y perdent la vie, déclenchant une féroce contre-offensive, un déchaînement de violence qui dure plusieurs années et entraîne in fine la mort de 100 000 rebelles ou civils et l'arrestation de 300 000 autres. Les Britanniques qui, toutefois, sentent passer le vent de l'histoire et le 12 décembre 1963 est proclamé l'indépendance du Kenya. À sa tête est placé un militant indépendantiste, un Kikuyu, formé à la politique en Europe et en Union soviétique, un homme emprisonné par la suite 9 ans par les Britanniques et qui allait régner sur le tout nouveau Kenya indépendant, un certain Jomo Kenyatta.
Tout a commencé par un gigantesque embouteillage. Mais dans la nuit, 300 000 personnes ont donné libre cours à leur enthousiasme lorsque les couleurs du Kenya sont apparues au haut du mât situé face à l'immense arène. Cette minute de l'indépendance fut précédée du spectacle tant attendu offert par le Kenya à ses hôtes et aux milliers de Kenyans venus pour être les témoins de la proclamation de leur indépendance. Ce que mes yeux ont vu est difficile à décrire. Imaginez un stade envahi par plus de 1000 chanteurs, danseurs et danseuses, mêlant aux couleurs de leurs costumes l'éclat des lances, Maasai vêtus de plumes blanches, Kikuyu athlétiques et fiers, Luo rouges et bleus. C'est un immense caravansérail de couleurs et de sons qui émerveille nos yeux et nos oreilles. À l'approche de minuit, la place est désertée. Le Premier ministre, M. Jomo Kenyatta, accompagné du gouverneur, M. MacDonald, s'approche du centre de l'arène. Et, tandis que l'Union Jacques est amenée, la musique joue le God Save the Queen. Aux accents de l'hymne national du Kenya apparaissent au haut d'un deuxième mât les couleurs nationales du Kenya. Il est minuit, le Kenya est indépendant.
Malaika. Idege. Idege. Kuku waza kidege. Sina we ningekuoa kidege nashindwa na mali sina we ningekuoa kidege malaika nakupenda malaika malaika nakupenda malaika Nifanyeje kijana mwenzio nashindwa na mali sina we ningekuoa malaika nashindwa na mali sina we ningekuoa malaika.
Je t'aime, mon ange, que puis-je faire, moi, ton jeune amoureux, si ce n'était le manque de fortune, je t'épouserais. Cette année 63 qui voit l'indépendance du Kenya, cette chanson résonne partout, à la radio ou sur les phonographes. Ce Malaika, autrement dit « Mon ange » par le chanteur Fadhili William, chanson qui deviendra rapidement l'une des plus célèbres du continent. Une chanson que Fadhili William avait d'abord interprétée quelques années plus tôt dans une émission de la Radio Nationale, avant de l'enregistrer une première fois en 1960, puis une deuxième fois, cette année 63, incité par un producteur, un certain Charles Warhol. Warhol, un Anglais qui avait quitté son Coventry natal pour venir s'installer en Afrique du Sud, puis au Kenya, où il avait fondé un studio d'enregistrement, l'Equator Sound Studio. Warhol, dont l'héritage musical est considérable, puisque, outre avoir pris sous son aile et formé plusieurs musiciens, il avait également généralisé la pratique des royalties pour rémunérer les compositeurs et permis l'enregistrement de l'hymne national, un hymne récemment composé et intitulé « Harambe, Harambe ». Harambe, qui signifie « tous rassemblés » en swahili et qui devient la devise officielle du pays, autant qu'un concept promu ces années-là par le pouvoir, appelant les communautés à dépasser leurs différences pour bâtir une nouvelle nation. Et, accessoirement, à mettre la main au porte-monnaie pour des projets communs. Le Kenya est en effet une nation multiple, divisée entre une dizaine d'ethnies, à commencer par les Kikuyu, les Luas, les Luos, les Kalenjis ou les Kambas, qui ne partagent pas toujours les mêmes points de vue. Majoritairement chrétiens, ces 8 ou 9 millions d'habitants répartis sur un territoire grand comme la France métropolitaine parlent une soixantaine de langues différentes, même si le Swahili sert de langue officielle. Dans les années 50, le pays encore largement rural a commencé à se moderniser, voyant l'apparition de la radio. Et concernant la musique, en même temps que revenaient de la Seconde Guerre mondiale, où ils avaient principalement servi en Afrique contre les Italiens, de jeunes Kenyans rapportant des guitares, étaient apparus donc les premiers studios d'enregistrement. Nairobi était en passe de devenir l'une des scènes musicales les plus actives du continent, où l'on pouvait entendre le kwela, ce jazz sud-africain, mais aussi les grands guitaristes congolais comme Jean Bosco Mwenda. Puis, ce début des années 60 déferle la mode du twist, apparu une poignée d'années plus tôt aux États-Unis et qui adopte ses guitares électriques sautillantes, ses riffs rockabilly, ses lignes de basse mélodiques sur lesquelles des paroles en swahili évoquent l'optimisme général de l'époque, mettant au passage fin à une longue tradition musicale de chants accompagnés à la seule guitare sèche. Cette mode s'appuie sur quelques musiciens non kényans, mais installés à Nairobi, comme les Zambiens Nashil Pichen ou Peter Tsotsi Juma, ou bien quelques musiciens locaux, comme celui dont on parlait plus tôt, Fadhili William, ou bien encore Daniel Kamao. Niro niwe ndura nyenda
batatea kuliganero aniver Ea atigire badokia kiongo Na wendo wakure mole otakigwa Wendo atigeri ganero aniver Kwa mande nasio digo koida Nangwa maisho newe wantekerine Jokeria wendo wakwanda kudaida Woi woi mwendo atigwe rada
I Love You 1970, le chanteur Kikuyu Daniel Kamao, né 21 ans plus tôt dans un petit village, ayant dû quitter le lycée faute de pouvoir s'acquitter des frais de scolarité, avant de percer comme musicien grâce à ce morceau, devenu un hit national, se vendant à 10 000 exemplaires et incarnant alors une nouvelle esthétique musicale. Au début, donc, le président Jomo Kenyatta, surnom signifiant le javelot flamboyant du Kenya, règne sur le pays, l'un des plus modernes du continent, et tout semble rouler. Après la fuite effrénée de quelques milliers d'Européens, après l'insurrection Maomo, les choses se stabilisent. Kenyatta s'avère être un modéré, soucieux de dialoguer au mieux, avec le Commonwealth comme avec ses voisins ougandais et tanzaniens. Tandis que se crée une association des producteurs de thé pour aider les milliers de nouveaux petits planteurs, À Nairobi, la capitale, surnommée « The Green City in the Sun », la ville verte sous le soleil, à cause des palmiers bordant ses rues, l'activité est intense. Sa population augmente rapidement grâce à l'exode rural. On vante sa modernité, son centre des affaires, ses buildings, ses banques. À l'image du pays qui attire de plus en plus de touristes européens ou occidentaux venus chavirer au contact des bêtes sauvages, Nairobi déborde de dynamisme, d'optimisme et de fêtes. Comme les samedis soirs au Starlight Club, ouvert l'été 1965 par un Anglais, un certain Robbie Armstrong, à l'ouest du centre-ville. Là déferlent chaque mois 12 000 clients que le patron distrait en leur proposant dans un vaste jardin un barbecue permanent, proposant non seulement du bœuf mais aussi de la viande d'animaux sauvages, lions, éléphants ou autruches. Le Starlight, où l'on peut entendre la meilleure musique africaine mais aussi jazz et rhythm and blues. Des groupes locaux s'y produisent, The Ashantis, Les Cavaliers ou bien encore Matata, adaptant James Brown ou bien Earth, Wind and Fire. Toutes ces influences, auxquelles il faut ajouter le Wimowé sud-africain et surtout la rumba congolaise, finiront par donner naissance à un style typiquement kényan, le benga. Benga, dont le nom signifie quelque chose de beau en langue luo, était venu des bords du lac Victoria, où l'on joue traditionnellement d'un instrument, une lyre appelée Niatiti, dont les jeunes guitaristes se mettent à imiter les mélodies rapides et syncopées. Le benga, qui conquiert un large public avec des groupes chantant des histoires d'amour légères. On trouve également le groupe d'un certain Gabriel Omolo, passé par l'Equator Sundown, avant de graver son premier disque, qui devient rapidement l'emblème du benga.
Wengine wanakunywa soda na keki, kukuro yote kwa chapati na ngombe. Na wengine na wazunguka maduka, wakijidai wanafanya window shopping. Kufika mwisho wa mwezi uwanja zile mondo, yona nae lala ni asiye na kazi. Wamekwenda wote kula hotelini, wengine kwa biryani, wengine kuku na wali. Watu waenda Soeria, watoroka Maragwe, waenda hotelini kwa chapati na ngombe. Na wengine nao wale mishara juu, siku hiyo wote kwa hoteli za wazungu. Shida ndiyo ufanya mtu kulala chini ya miti. Kumbe shida ndiyo ufanya mtu kung'ang'ana na maharagwe. Kumbe shida ndiyo ufanya mtu kuonekana kama mtoto. Nimeelewa nimeelewa, nimejua kumbe. chini ya miti kumbe shida ndio ufanya tukungangana na maragwe kumbe shida ndio ufanya tukuonekana kama mtoto nimeelewa
Disque d'or en 1973, Lunchtime par le chanteur Gabriel Omolo et son groupe les Apollo Comecha, déplorant la pauvreté des travailleurs condamnés à passer leur pause déjeuner allongés dans les champs, le ventre tordu par la faim, rêvant de bœuf et de biryani dont ils ne se régaleront qu'une seule et unique fois à la fin du mois, une fois leur pays touché. La fin de la colonisation, de fait, n'a pas signifié l'éradication de la pauvreté. Certes, la loi coloniale empêchant les Africains de posséder la terre avait été supprimée, mais certains Anglais en avaient profité pour demander et pour obtenir la citoyenneté kényane et, se taillant la part du lion, pour conserver d'immenses territoires. Une politique clientéliste continue d'avoir cours. Cette question de la répartition des richesses entraîne rapidement des tensions au sein du nouveau pouvoir. Le président Kenyatta s'oppose à son vice-président, originaire de l'ethnie Luo et qui réclame une plus grande justice sociale. Résultat, en 1966, ce vice-président, Oginda, finit par quitter ses fonctions afin de créer son propre parti. La rivalité entre les deux hommes se poursuit et 3 ans plus tard, Oginda est arrêté, emprisonné et son parti interdit. Dans la foulée, Jomo Kenyatta est réélu pour un 2e mandat et pendant longtemps, il ne sera plus question de multipartisme.
À l'instant même, un télégramme en provenance de Nairobi, je vous le lis en prenant connaissance en même temps que vous. Deux hommes, nous dit-on, ont tenté ce soir d'assassiner en le poignardant le président Jomo Kenyatta. Le président de la République du Kenya est sain et sauf. Nous en saurons plus, je pense, dans nos bulletins de la soirée.
11 août 1972, les nuages s'amoncellent au-dessus de la tête du président Jomo Kenyatta qui s'attire de plus en plus d'inimitié. De fait, s'il s'était courageusement battu pendant la colonisation britannique, s'il l'avait payé par 9 années de prison, l'homme semble avoir accédé trop tard au pouvoir. C'est un président fatigué, quasi octogénaire. Il en a marre de combattre, il aimerait plutôt jouir de la vie. De fait, il semble se laisser gagner par les sirènes du pouvoir personnel. Et en 1974, pour son 3e mandat, les élections sont carrément annulées. Pendant ce temps, des voix appellent à ressusciter les combattants d'antan, comme The Rift Valley Brothers qui, dans la chanson suivante, Mo Africa, exhorte la conscience noire et les Kenyans à tenter de se réconcilier avec leur héros passé, louant notamment le courage des Mau Mau.
Néweo
Nye
Yeni
Mo Africa Mo Africa Yede Mo Africa Nye Yede Mo Africa.
France Culture, Jukebox, ce soir, Kenya, espoir et désillusion de l'indépendance. ce début des années 70, le cœur musical de Nairobi bat du côté de River Road, une petite rue du centre-ville. Là fusionnent les différentes tendances du Benga, quelles qu'en soient les tribus ou les ethnies d'origine. Des centaines de petits magasins vendent au détail des 45 tours qu'ils produisent à tour de bras. On y trouve des rumba, swahili ou congolais, des labels locaux, mais aussi et surtout les multinationales comme PolyGram, EMI ou CBS. C'est alors qu'en 1974, une nouvelle loi interdit aux non-kényans de diriger une entreprise. Charles Worrod, l'anglais qui 20 ans plus tôt avait fondé l'Equator Sound Studio et le groupe du même nom, est contraint de mettre la clé sous la porte, refusant d'opter pour la nationalité kényane. Pour autant, l'euphorie musicale se poursuit et le Kenya continue de voir les styles musicaux les plus divers se croiser, comme ceux débarqués via l'océan Indien dans la grande ville côtière de Mombasa. Là, de nombreux groupes gagnent leur vie en jouant dans les hôtels et les bars de plage, comme à Niali Beach au sud de la ville, au Mombasa Reef Hotel, le plus grand et le plus célèbre de ces grands hôtels classiques, où officie l'orchestre résident, celui des Mombasa Vikings, un nom taillé sur mesure pour plaire aux touristes nordiques qui déferlent chaque année sur place. Mama Matotoya, autrement dit l'erreur de la mer, par le groupe The Mombasa Vikings, 1975. Ces années-là voient également le déferlement au Kenya du funk, dont l'un des plus grands interprètes locaux s'appelle Slim Ali. La plupart des chansons qu'il compose sont chantées en anglais, à l'inverse de la prochaine, celle que vous allez entendre, intitulée Watoto Nyara, invitation faite à tous, jeunes ou plus anciens, à se joindre dans le respect de la musique traditionnelle.
Goma kitu jamana, ngoma, ngoma. kina mama, kina baba. Vijana kwa wazee.
Le chanteur Slim Ali and the Famous Audie Boys pour ce Watato Nyara 1976.
C'était le père de l'indépendance du Kenya, son nom se confondait avec celui de l'État qu'il dirigeait. Le président Kenyatta, qui vient de mourir à l'âge de 86 ans, était aussi appelé le javelot flamboyant, référence à sa participation à la révolte des Momo en 52. Révolte dirigée contre l'administration britannique. Depuis l'indépendance...
En août 78, disparaît le président Kenyatta, remplacé par son vice-président Daniel Arap Moi. Le style du nouveau président, ouvert et accessible, tranche avec celui de son prédécesseur qui préférait gouverner dans le huis clos des cercles du pouvoir. Pour autant, il demeure des règles, des limites à ne pas franchir, comme l'expérimente alors le chanteur Daniel Kamau et son groupe de Lulu Band, et qui voit l'une de leurs chansons, Nana, interdite d'antenne en raison du caractère prétendument obscène de ses paroles. La corruption du pouvoir atteint des sommets, notamment à travers les dérives des collectes de fonds, les traditionnels harambe qui, dans les campagnes, frappent tout le monde, y compris les plus démunis, condamnés à se voir spoliés de leurs rares biens jusqu'aux tables et aux chaises des maisons. Le sort des exilés poussés vers les villes ne s'avérant pas meilleur, confrontés à la pauvreté en milieu urbain où tout coûte plus cher et qui tentent de garder le contact avec les leurs restés dans les campagnes, Sharoni Niwazi, la vie est dure, comme le chante en 1977 le groupe des Maroon Commandos.
Vida,
Sharoni Niwasi, La vie est dure, signé du groupe Les Maroon Commandos, formé en 1970 par des soldats de l'infanterie stationnés à Nairobi.
Nundu waku makwekwete kwa sisya wone dhena ngone sya andu.
Avant de refermer cette histoire, impossible de ne pas évoquer le destin d'un musicien disparu en 2006 et qu'on appelait là-bas le roi du Benga ou le grand-père du Benga, un certain Owino Misiani. Né en 1940, de l'autre côté du lac Tanganyika, dans l'actuelle Tanzanie, au sein d'une communauté Luo. Une communauté très chrétienne, où il avait commencé par chanter dans les chœurs d'écoles, d'hôpitaux ou d'églises, mais qui s'était montrée plus que réticente quand il avait souhaité composer ses propres chansons, d'autant que ses chansons, des ritournelles sentimentales, avaient tendance à chavirer les filles de son village et créer des tensions entre garçons. Plusieurs fois, il avait été obligé de fuir son village pour éviter les punitions, ses guitares étant alors saisies et détruites par son père. Ainsi avait-il atterri en 1960 à Nairobi, croisant la route de l'Équateur Sandband que l'on croisait au début de cette histoire. Après avoir fait la paix avec son père, en offrant à ce dernier du bétail et des vêtements qu'il avait pu acheter grâce à ses premiers cachets, il avait poursuivi sa propre carrière au sein de plusieurs groupes. Célébré sur place pour la qualité de ses textes qui lui valent à plusieurs reprises d'être emprisonné par le pouvoir de Kenyatta, Misiani avait connu une carrière très longue, 40 ans, recoupant l'histoire contemporaine du Kenya. Le Kenya où, à la fin des années 80, le piratage et la concurrence d'autres styles sonneront le glas du Benga. Le Kenya où les autorités n'en finissent pas de chercher des noises aux artistes, leur refusant les passeports nécessaires pour aller se produire à l'étranger. Pini osé mère, le monde est fou, comme le chantait Misiani en 1989 dans cette chanson d'amour appelant au respect des traditions.
Tutul nini nyiza ni termos mondi waloso.
Ainsi se referme ce numéro de Jukebox. Ce soir, Kenya, les rythmes de l'indépendance. Une émission préparée par Chouchane Djergaillan avec Antoine Villot de la discothèque de Radio France et les services de l'INA. Jukebox se réécoute et se télécharge en ligne sur franceculture.fr où vous retrouvez la liste des morceaux diffusés, les références des archives et la possibilité de nous écrire. Ce soir, derrière la vitre, c'était Claire Levasseur. La réalisation était signée comme chaque semaine Agnès Catou, au micro à Maurice Chardot, à samedi 19h pour un prochain Jukebox. Box.